Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à tous, cette nouvelle édition Biotope nous permet de partir à la rencontre de deux exploitations affiliées à l'élevage. Sur les 30 dernières années, l'effectif ovin de Romois a perdu près d'un tiers de ses brebis. Les années à venir verront-elles se poursuivre cette érosion? Le cheptel de Romois est toujours principalement présent sur la montagne sèche d'Iwa, Crétois, Pays de Bourdeaux. C'est au col de la Chaudière que nous rencontrons Sébastien Pellurson, éleveur à Mornant. Il nous présente son exploitation. Au fil de la discussion, nous abordons son quotidien, les problèmes qu'il rencontre et les perspectives qu'il envisage.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Je suis Sébastien Pellurson, j'élève des brebis à Mornant, principalement des brebis, j'ai 230 brebis, j'ai une vingtaine de chèvres, quelques vaches. Voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis installé. Je suis pas issu du milieu agricole. Donc voilà, l'installation, ça n'a pas toujours été facile, mais petit à petit, je fais ma place et voilà.
C'est quoi qui te décide à te lancer là-dedans? Parce que même avec un regard extérieur, on va dire que c'est pas forcément très avenant, au départ.
Ouais, qu'est-ce qui me décide à avoir fait ce choix? Différentes choses, j'ai fait des études et puis au bout d'un moment je trouve pas ma place là au milieu quoi. J'ai toujours eu un contact avec les paysans, les éleveurs, les voisins, ça m'a toujours plu et un jour à 20-25 ans je me suis dit entre aller bosser dans un bureau ou dans un labo et suivre un petit peu tu vois ce qu'on va t'imposer, les idées qui sont pas forcément les tiennes ou vivre ta vie, faire tes choix et avoir une certaine liberté dans le travail, je me suis dit bon ben. Je vais plutôt choisir ce côté-là, donc du coup j'ai décidé de m'installer. Ouais.
Alors entre la décision et la réalisation, c'est un parcours de combattant?
Ah ouais, c'est un parcours du combattant. Alors ça fait déjà au moins 10 ans, donc j'ai plus tout en tête, mais c'est vrai qu'à l'occasion, à ce moment-là, on aurait pu en parler pas mal, parce que ouais, c'est vraiment le parcours du combattant. Ouais. Quand t'es pas du milieu agricole... C'est chaud, donc j'ai plus tout en tête, mais les formations pour adultes, de reclassement, les stages à droite à gauche, les montages de dossiers. Puis après, il y a le problème de trouver des terres, quoi. Ça aussi, c'est le parcours du combattant. Alors surtout en élevage, tu as besoin de grandes surfaces, quoi. Donc voilà, j'ai presque 150 hectares de pâturage pour mes brebis. Donc là, c'est chaud, quoi. Et le problème du logement aussi, c'est important. La campagne, déjà quand tu trouves des terres, c'est déjà pas mal, après il faut te loger aussi, et ça c'est encore une seconde chose, donc c'est jamais évident. Donc ouais, l'installation c'est pas facile. Quand tu t'installes, tu montes un dossier prévisionnel d'installation, où tu expliques à peu près comment tu veux fonctionner, le nombre de bêtes que tu vas avoir, comment tu vas les vendre. Bon là, c'est à peu près, ça n'a pas été encore la partie la plus dure, parce que moi j'ai fait une installation assez simple, j'ai peu investi, j'ai pris une petite ferme en location, j'y suis allé tout doux, j'ai pas fait de gros investissements, j'ai juste acheté un petit tracteur au début, un petit troupeau, j'ai augmenté petit à petit. Et là-dessus ils m'ont suivi.
Donc t'as découvert un petit peu l'univers en cours de route quoi.
Ouais, avant de m'installer j'ai fait quelques stages. Je suis allé faire berger 3 mois sur les hauts plateaux du Vercors, j'ai fait 2-3 stages à droite à gauche et puis après ouais... J'ai appris un peu sur le tas.
Et à la sortie, tu t'installes, tu te fixes des objectifs à atteindre dans le temps, ou bien c'est quelque chose que tu vois de manière très très globale en te disant chaque jour suffit sa peine et...
Non, je me fixe pas trop d'objectifs, c'était plus un projet de vie aussi quoi. Vivre pour toi, pour tes bêtes, pour ta famille, des objectifs, j'en ai... Ouais, mes objectifs, c'est que mon troupeau aille bien, c'est que ma ferme, elle tourne, c'est qu'au niveau de la famille, ça tourne derrière. Mais voilà, après, je me mets pas trop d'objectifs chiffrés ou de trucs comme ça, parce que les premières années, tu fais des conneries, quoi. Forcément, je me suis jamais trop... Enfin, tu vois, les premières années, quand j'avais une merde, un annulage qui se passait pas bien, 10 agneaux qui claquaient ou un truc comme ça, j'ai jamais mis des chiffres derrière, quoi, parce que sinon, à mon avis, tu deviens vite fou, quoi. Tu te dis, bon, ben voilà, j'ai fait une connerie, j'ai appris, ça, je le referai plus... Ouais, donc je me suis jamais trop mis d'objectif parce que sinon à mon avis tu te prends vite la tête. Après vu que je me suis installé en plus sans gros investissement, j'avais cette possibilité de pas trop me prendre la tête si j'avais une merde sur un agnelage ou une connerie comme ça quoi. J'étais pas non plus pris par les remboursements et par les dettes, ce qui est peut-être des fois le souci d'autres cas d'installation où les mecs ils s'en mettent plein la tronche en investissement et où là quand tu fais une merde ben tout de suite, il y a des chiffres derrière à aligner. Et là, ça peut vite être plus stressant, quoi. Donc moi, je me suis pas installé dans cette optique-là. Plus un truc un peu cool. On y va doucement et on se met pas trop la corde autour, du coup.
Alors, t'avances comment, du coup? C'est tu t'es rapproché de d'autres éleveurs de manière à pouvoir aussi partager une expérience, mettre à profit le coup de main, échanger, ou bien chacun va à sa vitesse, toi tu gères ton truc.
Non, forcément tu te rapproches d'éleveurs, d'autres voisins avec qui t'as un feeling, avec qui tu te sens bien quoi, hein. Y a des gens avec qui...
T'as quelle impression finalement en tant qu'éleveur et en essayant de te respecter toi-même, de respecter tes bêtes, de respecter ton environnement? T'as l'impression de te marginaliser? T'as l'impression d'être militant?
Oui, bah là, depuis quelques années, j'ai un peu l'impression d'être une espèce de militant, comme tu dis, oui. Parce que... en gros, les premières années, t'es dans l'installation, t'es dans ton troupeau, donc je me suis pas trop bagarré, j'ai pas trop milité. Parce que de toute façon, t'as pas bien le choix aussi. Au début, il y a tellement de choses à faire que tu les fais. Et puis, je dirais qu'au bout de 5-6 ans, quand les choses elles sont un peu posées, que tu sens que ça tourne un peu mieux, que tu es un peu plus à l'aise, tu te sens un peu mieux dans tes baskets aussi, quoi. C'est plus facile d'ouvrir un peu ta gueule quand tu vois que finalement ton truc ça tourne et que ça fonctionne. Donc du coup, je me suis un peu plus investi sur les problématiques d'élevage, sur la tournure de l'élevage, sur la tournure que l'élevage prend depuis quelques années, quoi. Donc effectivement, j'ai pris du temps sur mon travail pour militer, pour dire ce que je pensais, pour dire ce contre quoi j'étais pas d'accord, ce pourquoi j'étais d'accord, etc. Donc voilà, oui, depuis quelques années, ça me prend pas mal de temps. Suite à la vaccination obligatoire contre la fièvre catarrhale ovine, qui date de 2008, il y a un collectif d'éleveurs qui s'est formé dans le département, puis comme dans d'autres départements et partout en France. Et donc voilà, j'appartiens à ce collectif d'éleveurs et on essaye de faire remonter notre voix et de faire remonter nos idées sur la défense d'un élevage. On n'a pas le qualificatif pour le décrire, hein. c'est pas traditionnel, c'est pas bio, c'est pas naturel, je sais pas, mais voilà, c'est sur notre façon de faire de l'élevage, en tout cas, qu'on respecte notre façon de travailler, et ce qu'on a l'impression depuis quelques années, ce qui n'est plus possible, quoi. On a l'impression que l'élevage part dans une direction qui on peut qualifier d'industrielle, à mon avis, sans souci, et voilà, et si on se bouge pas, je pense que... on va finir comme l'élevage porcin ou l'élevage avicole avec des grandes structures, des élevages en intégration où bah, le paysan, l'éleveur a plus son mot à dire, quoi. Donc voilà. Il y a trois grandes... Enfin pour moi, je vois trois grandes réformes en matière d'élevage de petits ruminants là, c'est sur ces dernières années qui font que je pense que les gens concrètement se mobilisent et se bougent. C'est en 2008 donc la vaccination obligatoire contre la fièvre catarrhale ovine. Donc la fièvre catarrhale ovine, c'est une maladie que les ovins, les caprins et les bovins peuvent contacter. C'est une maladie qui est pas transmissible à l'homme. C'est une maladie qui fait un peu de mortalité sur les troupeaux, des avortements, etc. C'est une maladie pour laquelle l'immunité naturelle marche bien, fonctionne bien. Donc il y a une partie des éleveurs en France qui a dit nous on veut fonctionner sur l'immunité naturelle. Notre réponse à cette maladie, c'est pas forcément la vaccination. Il y a d'autres façons de fonctionner pour protéger nos troupeaux. C'est notamment l'immunité naturelle, notamment aussi la phytothérapie, l'homéopathie, d'autres pratiques de ce style-là. Par la suite, donc depuis juillet 2010, on nous demande de mettre des boucles électroniques à nos animaux. Donc là, je parle des brebis et des chèvres. Donc depuis juillet 2010, on doit mettre une boucle électronique à tous les animaux qui naissent sur notre exploitation. À partir de juillet 2013, il faudra mettre cette boucle électronique à tous les adultes, cheptel reproducteur. Je pense justement que c'est aussi notre richesse, quoi, qu'on n'ait pas une seule façon de travailler. Je veux dire, au sein du collectif des éleveurs, il y a des gens qui sont bio, d'autres qui n'y sont pas, mais qui sont proches, Mais ce qu'on défend, c'est une liberté de travail. Et il n'y en a pas un qui travaille de la même façon au sein de ce collectif. Il n'y en a pas un qui a les mêmes idées. Mais sur le fond, on a une idée commune de l'élevage et de la liberté de pratiquer l'élevage, quoi. Mais je pense ce qui fait notre richesse, c'est que justement, on n'a pas un type d'élevage à défendre, quoi. C'est d'autres façons de travailler, quoi. Mais il faut pas que la PAC elle profite de ces subventions pour nous faire glisser, nous faire partir dans une direction, dans une production, dans un type de production qui ne nous plaît pas, quoi. Remettre en cause la PAC aujourd'hui, fonctionner sans la PAC aujourd'hui, enfin, moi je vois pas, j'ai pas les solutions. Il faut peut-être y réfléchir, il faut y réfléchir, c'est sûr, hein. Mais je sais pas les solutions. Par contre, actionner certains leviers pour en faire en sorte que la PAC respecte nos façons de travailler et qu'on puisse continuer à évoluer comme on le fait depuis quelques années, et que la PAC nous aide pour ça, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. Par contre, c'est toujours très dangereux, parce qu'effectivement, quand tu vis d'une bonne partie de subvention, tu es quand même toujours dépendant de cet organisme qui te les donne. Donc il faut toujours être très vigilant, et c'est quand même un système qui, globalement, qui n'est pas satisfaisant. Fatima fawqa al-hajara jalisa tabki tabki كان صرحها في الأسرة ولم يعد فلمن تشكي مكتوب مكتوب ولا عمدة وجنوس مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس ما للسماء لا ترى وما لها تمطر جمرا ما للرب هل عطرا أم في الأرض مختبرا ما دنبينا الأخرى وما العبرة فيما جرى ما للنور تفجرا وما له ولما هجرا مكتوب مكتوب ولا عمدجا وجنوس مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس مكتوب مكتوب ولا عمدجا وجنوس مكتوب مكتوب ولا كلمة في القاموس مكتوب
متى تهدى الدروب وهل رحل الغروب على بعض الشعوب خصامات القلوب
فاتما فوق الحجر جالسة تبكي تبكي
مكتوب مكتوب ولا عمدة جاوش
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
C'est au tour de Sébastien Blache de nous présenter son installation. Agriculteur en polyculture élevage à Montélier, il nous présente son parcours d'installation et sa manière de voir les choses.
Une exploitation agricole, pour moi, c'est comme un immense écosystème dans lequel on produit des choses pour nourrir les gens, mais où on a également des services... des services en termes d'environnement, en termes social, qui sont importants. Et donc pour ça, moi j'arrivais avec mes bagages d'écologiste, ou plutôt d'écologue, et le démarrage de l'exploitation, ça a été vraiment par le biais de la biodiversité, plus que de l'agriculture, ce qui a amené pas mal de déboires dans ma communication, notamment auprès de mes collègues agriculteurs ou auprès de... les différentes personnes que je pouvais rencontrer, puisqu'en fait, au démarrage, ils me demandaient si, à la fin d'une discussion ou d'une visite de ferme, si j'étais en train de vouloir faire une réserve naturelle ou une exploitation agricole. Moi, je revendique le terme de paysan, parce que pour moi, paysan, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas spécialisé, c'est pas une agriculture de filière, c'est une agriculture vivrière. Moi, je suis dans une démarche d'agriculture vivrière. On a des circuits de commercialisation courts, on peut tout consommer nous-mêmes. Je dirais que on est en capacité d'être en autosuffisance alimentaire sur l'exploitation. C'est pas le but, hein, mais par contre, on peut l'être, comme les exploitations l'étaient il y a 50 ans. Donc, en fait, je m'identifie vraiment à ça, parce que pour moi, c'est la clé de l'agriculture. Aujourd'hui, tous les problèmes de l'agriculture, que rencontre l'agriculture et notre société par rapport à ces questions de souveraineté alimentaire, de pollution, d'environnement, de social, sont, à mon sens, étroitement liés à cette agriculture de filière spécialisée qui a été une réponse économique, hein, c'est évident, hein, mais qui a en contrepartie détruit toute la capacité que les exploitations avaient de produire localement et surtout d'être les plus autonomes possibles. Moi, j'ai des rotations extrêmement compliquées, longues, avec justement des associations de légumineuses, avec beaucoup de cultures intermédiaires pour justement faire que les terres soient couvertes le plus de temps possible et qu'elles soient... en termes de matière organique, ne serait-ce que ça, hein, soit capable de se débrouiller elle-même, mais également sur le verger, en partie, puisque l'arboriculture, je veux dire, c'est probablement une des cultures les plus compliquées aujourd'hui à mener en agriculture biologique. Hein. On a vraiment des vrais problèmes techniques par rapport aux agresseurs que peuvent être les champignons ou les insectes. Et là-dessus, bien évidemment, on va essayer de... Moi, j'essaye de mettre tout ce que la nature peut me donner comme atout, quoi. Que ce soit les oiseaux, que ce soit les chauves-souris, mais que ce soit également les insectes auxiliaires. Là, on essaie d'aller au maximum. Pour ça, on a vraiment aménagé l'exploitation et on continue à le faire, hein, parce qu'on est relativement insatisfait dans ce domaine, mais... On a tout fait pour installer des nichoirs, des mares, des perches, des bosquets. Moi, sur les 10 hectares, il y a un dixième, enfin j'ai 10% de l'exploitation qui est liée aux aménagements écologiques sur l'exploitation. Là, nous ici, on est dans un écosystème de plaine Pratiquement tous les écosystèmes ont été transformés en zones cultivées. On est sur de la reconstruction écologique, on n'est pas sur du maintien d'existant. Mmh. Là, on a besoin de redonner à la nature la possibilité de créer des zones refuges. C'est là que les oiseaux vont pouvoir se reproduire, que les papillons vont pouvoir faire des cycles complets, que les abeilles sauvages, qui sont de futures pollinisatrices, vont pouvoir, pareil, installer leur colonie. Mais dans nos champs, ensuite, elles vont, tous ces animaux vont venir s'y nourrir ou faire grandir leurs jeunes, ou etc. Et donc, à ce moment-là, vont pouvoir, pour les abeilles, par exemple, venir polliniser nos plantes. Donc, on sent bien que c'est le mélange des deux, de la zone cultivée et de l'habitat, on va dire, subnaturel, quoi, où on redonne à la nature la possibilité de se développer, qui est une clé de la solution. C'est un outil comme si j'achetais un outil de... Je sais pas, on parlait de bineuse, une bineuse très performante, et ben là, on va s'équiper de mésanges, on va s'équiper de chauves-souris, on va s'équiper de libellules, c'est-à-dire qu'on va, on va développer des outils d'auxiliaires, des outils de biodiversité qui vont nous apporter, qui vont répondre en partie à nos problèmes. Mais bien sûr, pas tout. Il ne faut pas rêver. Les oiseaux ne seront pas capables de résoudre tous nos problèmes. La chouette ne sera pas capable de manger tous les campagnols qui nous posent problème dans les champs. C'est impossible, ça. Par contre, elle va participer à une régulation qui fait que si en plus on raisonne sur des rotations, si, etc., etc., on arrive à trouver des solutions. On est chef d'orchestre avec différentes grilles de lecture. On a des partitions de musique à multiniveau qu'on doit en permanence accorder. Et c'est aujourd'hui, pour moi, le défi de l'agriculture, c'est de comprendre que l'environnement, l'écologie, c'est un atout, c'est pas une contrainte. Il faut absolument optimiser nos cultures. On est aujourd'hui sur un gaspillage infernal. En cultivant une seule plante dans un champ, alors qu'on peut très bien en cultiver plusieurs en même temps, qui s'entraident, hein, une légumineuse, une céréale, qui limite du coup la concurrence avec les mauvaises herbes. Mais moi j'ai rajouté un deuxième niveau là-dedans, c'est l'élevage. En fait, l'élevage de plaine, donc l'élevage dans un système céréalier, c'est pour moi une des solutions d'agriculture d'avenir. Moi, je pense que l'élevage est indispensable. Certains disent qu'il faudrait arrêter l'élevage parce que ça consomme trop d'eau, trop de céréales. Il faudrait donc, par exemple, adopter plus un régime végétarien. Pour moi, ça, c'est un faux problème. Après, bon, on peut être végétarien, mais pas pour des questions d'agriculture. La polyculture élevage sur des petites exploitations, pour moi, c'est une des solutions d'avenir qu'il faut absolument envisager. Et il faut le raisonner comme un tout. À partir du moment où moi, sur l'exploitation, j'ai intégré les brebis dans le système d'exploitation, tout est devenu naturel. Vous avez de l'élevage. Votre luzerne, vous la faites pour votre rotation, mais aussi pour nourrir vos bêtes. Et en contrepartie, la matière organique, elle reste sur l'exploitation et vous produisez des agneaux. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Toutes les cultures intercalées que vous pouvez faire sur vos systèmes céréaliers, eh ben vous pouvez le faire pâturer, c'est pareil. Donc vous vous retrouvez en fait à avoir une disponibilité en herbe incroyable. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, l'agriculture biologique et le verdissement de la PAC amènent la mise en œuvre de plantes, surtout sur les zones de pollution, hein, que sont la vallée du Rhône, où on a des gros problèmes de pollution au nitrate, où on nous oblige par arrêté préfectoral à ne pas laisser des terres nues, donc à mettre des cultures comme des moutardes, comme tout un tas d'autres cultures pour couvrir les sols. Mais tout ça, ça va être détruit après derrière par des broyeurs. Bon, des fois, ils utilisent le gel sur des plantes gélives, mais voilà, c'est quand même un sacré grand gaspillage, quoi. Et si on avait la capacité d'avoir des exploitations qui optimisent tout ça, eh ben, en un seul coup d'un seul, on baisse la taille des exploitations, parce qu'avec un hectare, vous produisez des céréales, mais aussi de l'agneau, quoi. Donc, ou de la vache, ou du porc, ou ce que vous voulez. Vous intensifiez vos pratiques.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.